carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue dans cette émission Carrefour des Arts qui met à l'honneur le peintre français d'origine chinoise Shu Teixun, membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui est en ce moment même la tête d'affiche du musée Guimet à Paris avec une exposition de peinture sur porcelaine de Sèvres. Ce sont des vases, plus précisément, sur lesquels le peintre d'origine chinoise a peint des formes abstraites faites de neige, d'or et d'azur. C'est le nom qu'il donne aux trois couleurs qu'il utilise et qui sont montrées donc à l'occasion de cette exposition. Alors pour parler de cette exposition et de ce peintre, je reçois dans cette émission deux personnes, donc Lydia Arambourg à ma droite, critique d'art et correspondante de l'Académie des Beaux-Arts, et Antoine Poncet, président en 2009 de l'Académie des Beaux-Arts. Alors bienvenue à tous les deux, merci d'avoir accepté cette invitation. Il faut préciser que c'est à l'initiative de la galerie américaine, la Marlborough Gallery, qui est la galerie de Shu Teixun, que ce dernier réalise à la manufacture de Sèvres cette série de décors uniques sur pâte crue pour vase, que l'on peut voir donc au musée Guimet jusqu'au 7 septembre 2009. Madame Arambourg, vous êtes intéressée à Shu Teixun depuis un petit moment, puisque vous avez écrit une monographie des œuvres donc, du peintre en 2006. Alors, comme vous l'avez déjà un peu étudié, on va démarrer par une question introductive avant de passer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à Shu Teixun ?
Eh bien, Shu Teixun, qui est en fait un peu sa peinture fait la synthèse de deux cultures, et c'est vrai que il y a cette approche cosmique, cette intégration du peintre dans un paysage. Ça, ce sont ses origines, parce que le peintre chinois ne copie pas la nature, ne la représente pas. Il la transpose pas non plus, il la transfigure, c'est-à-dire qu'il s'immerge vraiment dans un paysage et il en tire la quintessence. Donc Shu Teixun était amené forcément à être, de par ses études dans la grande école d'art de Hangzhou, à connaître tout de même la peinture occidentale, et très vite il a été préoccupé par ces problèmes d'espace, ces problèmes de représentation. Et il y a deux peintres qui l'ont profondément marqué, c'est Cézanne et Nicolas de Staël. Donc quand il arrive à Paris en 1955, c'est vrai qu'il n'a qu'une idée, c'est d'aller voir, de vérifier vraiment physiquement, je dirais, avec vraiment son regard et même son corps, comment Cézanne avait transcrit l'espace, les volumes, la lumière dans un tableau, c'est-à-dire en deux dimensions. Et puis alors, Nicolas de Staël, c'était aussi ce peintre qui avait été au plus loin d'une abstraction qui n'en était pas une, mais qui était quand même une distance prise avec un sujet. Et ce sujet, lui échappant à un moment donné, il a besoin que cette réalité se réintègre, revienne dans la peinture. Donc il y avait cette distanciation entre ce que l'on ressent, ce que l'on voit, ce que l'on transmet. Et donc Shu Teixun est parti sur ces deux pôles, à la fois sa culture profondément chinoise, bien sûr, et c'est un peintre chinois, mais qui a tout de même assimilé notre peinture occidentale, notre peinture française, qui rejoint les conquêtes faites par les peintres juste après la guerre, donc en 45-50, et il y a ces questionnements qui vont être les siens et auxquels il va donner des réponses, ses propres réponses.
Antoine Poncet, Shu Teixun est membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis le 17 décembre 1997. Il est le premier artiste français d'origine chinoise élu à l'Académie. Pourquoi, selon vous, ce peintre mérite sa place à l'Académie ? Qu'est-ce qui vous plaît dans son œuvre, ou ne vous plaît pas, hein ? Vous êtes tout à fait libre.
Je pense qu'il y a l'œuvre et il y a l'homme. L'homme nous a beaucoup plu depuis le premier jour où il a été recommandé par notre ami et confrère Albert Ferraud, qui vient de disparaître, qui est devenu vraiment, dès le début de son séjour en France, de son abandon de la Chine pour des raisons en partie politiques, est devenu vraiment son grand camarade, son grand ami. Et nous avons été tout de suite attachés, naturellement, au travers de Ferraud, qui était lui-même un sculpteur de force et plein d'histoires, puisqu'il a été parallèlement aussi à César, quand même un des grands novateurs dans cette façon d'utiliser le métal. Et donc, Chou est arrivé et nous l'avons tout de suite, si je peux dire, pris dans notre famille de l'Académie. Et il s'est toujours trouvé à sa place. Il a toujours été très digne par rapport au débat, par rapport à ses idées. Donc, nous sommes heureux de l'avoir et nous espérons l'avoir encore longtemps avec nous. Maintenant, sur le plan de sa peinture, c'est certain que son apport de la culture chinoise, tout à fait imprégné aussi de la culture française, est une richesse dans l'œuvre d'un artiste aussi libre que lui, très importante. Donc, nous l'acceptons beaucoup aussi au point de vue de son œuvre.
Cette exposition, à tous les deux, qu'est-ce qui vous a plu? Donc, c'est 56 vases qui sont donc présentés dans une salle avec un éclairage particulier. Chaque vase est différent. En quoi sont-ils différents et en même temps se rapprochent-ils les uns des autres? Je vous laisse le choix de la parole.
Moi, je trouve que c'est un grand chant très joyeux, très heureux, qui passe au travers de ces 56 vases, qui sont tous la même veine, la même veine avec des modulations différentes. Mais je trouve que c'est très joyeux, très gai, très, très frais. Et quand on pense que c'est quand même peut-être une des œuvres Chou à 89 ans, que c'est quand même une de ses œuvres peut-être ultimes, je l'espère pas. C'est merveilleux qu'il y ait toute cette fraîcheur qui apparaît au travers de cet art très chinois à l'origine, mais quand même aussi très français au travers de la manufacture de Sèvres. Enfin, c'était un grand bonheur de me balader hier encore au milieu de ces 56 vases qui sont l'expression vraiment d'un grand artiste.
Non, je crois qu'effectivement, ce qui frappe, c'est la liberté. Et c'est une liberté, en fait, qui est extrêmement maîtrisée. Et ça permet justement d'évoquer la culture, encore une fois, de Chou Tae-Chun, sa culture ancestrale, qui est d'abord celle du calligraphe, la calligraphie qu'il a bien sûr étudiée très très jeune, qu'il a ensuite perfectionnée en faisant ses études d'art. Mais c'est vrai que Chou Tae-Chun m'en a parlé, il en parle volontiers d'ailleurs avec tous ceux qui parlent de sa peinture avec lui. C'est un geste, c'est difficile pour un occidental, je pense, de comprendre ce geste. Quand Chou Tae-Chun dit que c'est un geste qui traverse des millénaires, c'est vrai que quand on le voit tenir son pinceau, d'abord, il y a une façon très particulière de tenir son pinceau, il le tient verticalement, ce qui pour nous est presque incompréhensible parce qu'on a plutôt tendance à avoir la main presque horizontale par rapport au papier ou à la toile si on travaille devant soi. Mais il tient vraiment son pinceau d'une façon verticale et le manche du pinceau vient se coller, si vous voulez, entre les phalanges. Et alors là, il se passe quelque chose d'absolument vertigineux parce que c'est un geste presque sismique. Donc, quand je parlais au départ de cette relation avec le cosmos, c'est là où vraiment il y a cette intégration avec la nature. Alors ça, c'est éminemment, bien sûr, cet aspect aussi de je dirais, la spiritualité taoïste, c'est la poésie, c'est la peinture chinoise. Et Chou Tae-Chun est parti de là. Il faut savoir que c'est là, ce sont ses origines. Mais bien sûr, ça va s'ouvrir à des découvertes qu'il fait ici en arrivant chez nous. Mais pour revenir à cette calligraphie qui est à la fois très gestuelle, d'où justement cette adhésion à l'abstraction lyrique, parce qu'il ne peut que se rallier justement à ces peintres dont il fait la connaissance. Antoine Poncet parlait d'Albert Ferrault. Quand vous voyez la sculpture d'Albert Ferrault, c'est aussi une écriture dans l'espace à partir du métal qui est découpé, qui est plié, qui est tordu. Et c'est quelque chose d'extrêmement ludique, de baroque, comme vous disiez. Et c'est quelque chose qui donne c'est une énergie interne aussi, vous voyez. Donc ça aussi, c'est l'énergie tellurique, c'est l'énergie des éléments, c'est-à-dire que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit la terre. Donc il y a ces éléments toujours qui sont présents chez lui. Et ce désir d'avoir fait, je pense que c'est assez même emblématique, Chou Tae-Chun, qui est complètement intégré à notre culture et qui tout de même reste un peintre chinois fondamentalement, mais tout ça s'équilibre et c'est une synthèse magnifique. Et ces vases que nous voyons dans cette rotonde qui a été aménagée spécialement pour présenter ces porcelaines, je précise que c'est Yvon Chou, le fils de Chou Tetchoun, qui a fait,
la mise en scène.
Et qui a contribué aussi à cette efficacité visuelle, parce que l'éclairage marche magnifiquement. Ces vases sont sur des sellettes qui tournent. Donc, en fait, il y a tout un mouvement. On circule vraiment, et c'est au fond ce que nous apporte aussi sa peinture. On rentre dans cette peinture de Chou Tetchoun, qui est une peinture, finalement, qui nous fait rentrer dans un espace, non plus par cette perspective linéaire, traditionnelle, albertienne, qui est la perspective de la Renaissance, mais au contraire par une perspective qui est complètement ouverte, éclatée, et dont il trouve les origines chez Cézanne, justement.
Est-ce que alors, je voulais dire aussi, après ce que tu as dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup ouvert les yeux aussi, concernant Chou et sa nature, c'est vrai que cette façon de tenir le pinceau, dans le fond, il a un toucher qui a une sensualité
très précise.
C'est-à-dire qu'au moment où c'est la pointe du pinceau qui touche et qui pose la couleur, il y a un moment de sensibilité presque comme une note musicale qu'il interprète en couleur.
Oui.
Et ensuite, je sens et j'imagine la pression qu'il donne au pinceau. D'ailleurs, quand j'avais été dans son atelier, j'avais été impressionné par tous les pinceaux différents, chinois. C'est une chose de la Chine que nous ne connaissons pas. Donc, je trouve qu'au travers de ce toucher, c'est vraiment l'homme qui apparaît. Et c'est très beau de voir les images aussi, parce qu'on constate en regardant ensuite les vases, cette fluidité, cette approche sensible, sensuelle du peintre vers la réalisation finale du vase. Et ça, c'est très intéressant.
Avec une maîtrise totale.
Il y a une maîtrise totale, c'est parce qu'on pense qu'il y a de l'improvisation. Il y a sûrement ce qu'on peut dire intuitivement, mais tout ça, justement, c'est quelque chose qu'il porte tellement en lui et qu'il explique. Et moi, qui l'ai vu, effectivement, faire des calligraphies, on est à la fois saisi parce que ça semble très électrique, ça semble quelque chose qui fuse et qui part, et on se dit il y a comme une espèce de geste dans l'inconscient, dans l'instinct, et en même temps tout ça est extrêmement maîtrisé. Alors c'est là où nous avons peut-être du mal à le comprendre, mais Chou Tetchoun vous dira que c'est là où est justement son héritage.
Mais c'est très musical, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de langue, ça traverse les horizons du monde.
C'est un langage international.
C'est un langage, oui.
Alors voilà, justement, peut-être pour revenir à votre première question, ce serait ça. Ce serait que le langage, la peinture de Chou Tetchoun est absolument un langage universel.
Et puis, je crois que ce qui est essentiel aussi dans un moment de crise, un peu dans le monde de la peinture, surtout hier encore, je voyais des jeunes étudiants de Reims qui sont assez perdus actuellement en sortant des écoles des beaux-arts, parce qu'il leur manque les racines. Et là, chez Chou, en plus, on a les racines de la culture chinoise, et en plus, les racines aussi françaises, parce qu'il les a vraiment intégrées.
Il les a assimilées complètement.
À l'Académie de la Grande Chaumière, en contact avec les artistes et les peintres de l'École de Paris. Et donc, c'est vraiment un résumé, si on peut dire, plus qu'un résumé, une totalité, une richesse énorme de ces deux cultures qui apparaissent dans son œuvre.
Les jeunes artistes manquent de repères ?
Oui, je crois que les jeunes artistes disent, et hier c'était très intéressant, ils disent nous n'avons plus de racines, il faut que nous retrouvions des racines. Et donc je crois qu'il est nécessaire que, après les idées qui permettent de faire des installations et plein de choses qui sont dans le fond plus des réflexions intellectuelles que des réalisations avec la chair, c'est-à-dire avec la sensualité du peintre ou du sculpteur, et il faut qu'ils reviennent aux origines des métiers et qu'au travers de ces origines retrouvées, ils retrouvent leur propre personnalité qui apparaît dans leurs œuvres. À mon avis, c'est essentiel. Ils en ont besoin, ils en ont envie.
Vous avez bien décrit tous les deux l'ambiance de travail de Chou Tetchoun. Pouvez-vous nous parler de son univers de vie ? Est-ce qu'il influe dans ce travail-là ? Quel est-il ? On a envie de connaître la vie de cet homme incroyable.
Alors, je ne peux pas prétendre bien...
Un peu personnel, mais en même temps, donnez-nous des petites idées comme ça qui nous donnent envie de nous plonger dans son univers.
C'est un homme extrêmement pudique, c'est un homme très réfléchi et très méditatif, c'est très intériorisé. Et c'est peut-être le contraste avec sa peinture, qui est au contraire une peinture donc lyrique, puisque c'est un de nos grands peintres de ce courant de l'abstraction lyrique. Et il y a ces deux aspects. Donc il y a cette libération, quand je parlais d'énergie, c'est vraiment ça. Quand il peint, il y a vraiment une énergie qui monte progressivement, et donc le geste ne peut être que sûr. Mais comme tu disais, Antoine, c'est parce qu'il a aussi cette culture et cette grande tradition qu'il n'a cessé d'approfondir. Quand il arrive à Paris et qu'il va dessiner à la Grande Chaumière, il ne fait plus de la calligraphie. Il fait un dessin classique, on va dire, un dessin comme on peut l'enseigner justement dans tous ces ateliers de la Grande Chaumière. Et c'est donc l'académie, c'est-à-dire des nus, c'est savoir poser un objet dans un espace en trois dimensions. Et donc, il y a tout cet apprentissage qu'il poursuit,
qu'il
avait déjà commencé
dans les
en
écoles
Chine,
des Beaux-Arts en Chine. Et aussi, je pense, au travers de la culture de sa famille, puisque son père était médecin.
Oui.
Et je pense que c'est un homme bon aussi, qui, au
il
travers
est très
de sa peinture,
généreux. C'est un homme d'une grande générosité humaine.
Et je pense qu'il a quitté la Chine aussi parce qu'il avait un besoin de s'éloigner de la situation du peuple qui l'entourait.
Ça, c'est sûr.
Et donc, il a trouvé une richesse qu'il a, dans le fond, énormément rendu heureux. Je crois que vraiment, il a été heureux de venir en France et de venir à Paris.
Les sentiments profondément humains sont chez lui prioritaires et c'est comme une éthique de vie. Antoine Poncet parlait de sa grande amitié avec Albert Ferrault. C'est le premier artiste qu'il va rencontrer en arrivant à Paris avec lequel il se lie. Et très vite, il y en a quelques autres.
Donc, alors, il y a une fidélité.
Il y a une fidélité, mais indéfectible. Oui, c'est quelque chose d'absolument bouleversant. Mm-hmm. Parce que quoi qu'il se passe, et moi j'ai pu le vérifier parce que depuis une quinzaine d'années, je suis plus proche de Shu Te-Chun, de par des préfaces que j'écris pour lui, de par des textes. Et puis, on est devenus très amis. Donc, j'ai fait quelques voyages avec lui. Je suis allée à Shanghai quand il a eu sa grande exposition au Musée des Beaux-Arts. J'ai donc fait cette monographie avec lui dans le cadre des échanges, ce fameux livre dont Antoine Poncet a eu également une monographie pour...
grâce à lui, d'ailleurs.
Oui, grâce à lui. Voilà, ça aussi. Pour ses amis de l'Institut, de l'Académie des Beaux-Arts, Shu Te-Chun essaye de voir comment il y a la possibilité d'éditer des ouvrages consacrés aux académiciens par la Chine.
Et
par
il a trouvé l'éditeur et
il
sa femme, dont je peux dire un petit mot quand même, Thérèse a poussé, aidé,
énormément.
Était vraiment l'intermédiaire entre lui, l'éditeur et nous. Et ça a été un rapport amical aussi supplémentaire à celui qu'on rencontre uniquement dans l'académie, énorme. Mais...
Oui. Donc il y a ces liens vraiment très forts.
Très forts.
D'amitié qui font qu'il y a une grande, grande fidélité. Alors, il y a d'autres artistes qui sont très proches de Shu Te-Chun et qu'il va rencontrer, dont il fait la connaissance en 1955-1956. Avec Ferrault, c'est Xavier Longobardi, c'est Ladislas Quino, c'est Pierre Gastaud, c'est Paul Revel, qui sont des peintres de l'abstraction lyrique. Et ils ne se sont pas quittés, je peux dire, depuis aujourd'hui. Un a une exposition, ils se retrouvent. Ils peuvent faire 400, 500 kilomètres. Ça a été le cas quand Shu Te-Chun a exposé à Sochaux, ils étaient tous là, tous ses amis étaient là, et c'est à chaque fois ce côté vraiment convivial, mais je crois que c'est propre aussi à votre génération.
Je crois qu'il y avait des liens d'amitié très forts autrefois, qu'on ne retrouve pas en ce moment. Oui, on les trouve ici, avec les amis qu'on découvre aussi dans les autres sections de recherche créative qui sont importantes. Mais je crois qu'aussi, il y a une chose assez étonnante quand on parle des deux grands artistes chinois qui sont Zhao Wuqi. Et Shu était un peu dans l'ombre de Zhao Wuqi.
Pendant longtemps, beaucoup plus longtemps.
Et maintenant, vraiment, on ne va pas dire que l'un est meilleur que l'autre, mais vraiment, Shu a pris une place aussi importante que celle de Zhao.
Il s'est tout à fait imposé. Il a pris sa pleine mesure du peintre immense qu'il est et de la personnalité qu'il est, qui est la sienne aussi.
Dans l'exposition, les vases tournent autour d'un triptyque de couleurs, c'est-à-dire le blanc éclatant, l'or mat et le bleu azur. Pourquoi ces trois couleurs ?
Alors, les trois couleurs, bah, écoutez,
est-ce que
là
c'est
encore,
les trois couleurs fétiches de Shoot & Shoot?
On parle de cet équilibre entre l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Occident et la France. Et je crois que c'est ça. L'hommage que rend Shoot & Shoot, c'est de faire ces vases, de les réaliser dans notre grande manufacture nationale de porcelaine de Sèvres, donc qui remonte au milieu du XVIIIe siècle. Et en même temps, les couleurs qu'il choisit, ce sont les couleurs emblématiques de la porcelaine de Chine. C'est-à-dire, c'est ce fameux bleu, ce qu'on a appelé le bleu de Chine, le bleu céleste, qui est un bleu de cobalt, et Shoot & Shoot travaille avec cette couleur, avec l'or. L'or, c'est plutôt effectivement la couleur qui serait la nôtre dans tous ces services d'apparat où l'or apparaît vraiment et est très présent. Et puis le blanc, c'est la couleur du kaolin, donc c'est la couleur pure, absolue. Il faut savoir que ce qu'enviaient tellement les Occidentaux et les Français avant de trouver ce fameux gisement à Saint-Yrieix, à Limoges, qui a permis enfin de faire de la porcelaine dure, c'est-à-dire vraiment des porcelaines comme en faisaient depuis des millénaires les Chinois, c'est qu'une porcelaine doit avoir ce côté absolument lisse, satiné, très poli, la translucidité, et ça, il n'y a que le kaolin qui peut le permettre, et la sonorité. Et tu parlais tout à l'heure de musicalité, et c'est là où encore il y a aussi cette imprégnation de la personnalité, de ce qui fait la spécificité de la peinture de Shoot & Shoot. Ce côté musical, il le retrouve justement en travaillant la porcelaine.
Et qui s'approche aussi beaucoup de certains de nos musiciens de l'Académie des Beaux-Arts, comme Messiaen. Enfin, je pense à notre musicien qui a disparu il n'y a pas si longtemps que ça, dont tout à coup j'ai des trous, c'est terrible, hein, qui faisait aussi beaucoup de réalisations avec les oiseaux en Chine.
Ah, Messiaen?
Non, Messiaen, naturellement, oui. Non, mais beaucoup plus jeune, qui a disparu depuis quelques années.
Ah, qui était chez vous?
Oui, qui était chez nous.
Laurence.
Voilà, Florence.
Florence.
Voilà, c'est
voilà,
pas Florence. Moi, j'étais
Florence.
Aussi sur Florence.
Pardon.
J'étais pas sur Florence.
Florence.
Mais Florence,
Florence.
A fait
oui,
aussi
oui,
des œuvres formidables.
Oui, oui.
Donc, tout ça, ça rapproche aussi.
Oui,
un
oui,
peu
absolument.
De notre monde.
Et je crois que c'est ça, en fait. C'est que les arts ne sont pas, enfin, pour moi, les arts ne sont moi qui écris sur l'art, qui n'en fais pas, qui ne pratique pas, ni la peinture, ni la sculpture. Je crois que les arts sont inséparables. On ne peut pas les cloisonner. Un peintre est éminemment un peintre qui, à un moment donné, mais ça, c'est tout, il faudrait parler plus longuement de Kandinsky et de Klee, mais c'est la musicalité qu'il y a dans une peinture, qu'il
oui.
y a dans une sculpture.
Oui, oui, absolument.
C'est aussi
absolument.
Le cas de la sculpture oui. d'Antoine Poncet, qui est éminemment une sculpture qui est dans les sonorités, dans ces rapports entre les volumes, entre les vides, les pleins, et tout ça, les rythmes. Le rythme, très très important en peinture et en sculpture, le rythme. Et
les passages aussi.
Les passages
dans la peinture de Chou.
Les tonalités, par exemple.
C'est pour l'œil, c'est.
Donc en fait, on emploie les mêmes mots pour des disciplines différentes.
Oui, 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 oui.
Vous disiez que Nicolas de Staël avait beaucoup, beaucoup inspiré Shoot & Shoot. Ça a été un choc. En quoi ça a été un choc?
Il l'a étudié, il l'a travaillé. Parce qu'il a vu en Nicolas de Staël quelqu'un qui donnait peut-être les premières réponses à ses questionnements. Pourquoi et comment surtout ne plus être dans une peinture figurale et on va dire académique, et dans le sens où elle est presque copie conforme, vous voyez ce que je veux dire. On copie, on recopie ce que l'on voit avec les astuces qui sont données par tous ces problèmes qui sont résolus par la perspective, par le modelé, par, vous voyez. Donc tout ça, c'est délaissé au profit d'une immédiateté pour être au plus près de ce qui est l'essentiel de la peinture.
On termine sur une petite phrase de Shoot & Shoot. Le peintre chinois n'est pas devant la nature, mais dedans.
Ah,
voilà,
très
vrai. Ben, c'est ce que je disais, immergé dans la nature.
On le ressent complètement ça. Dans son œuvre, voilà, et je pense voilà. aussi dans la peinture, encore plus que dans les vases de Guimet.
Oui, peut-être.
Je trouve que là, il y a d'ailleurs une grande toile qui est exposée dans le dernier étage,
oui.
Où on voit les différences qu'il y a entre la peinture et ce travail plus, comment dire, d'objet, malgré tout, avec les vases. Et moi, je trouve que la peinture est formidable.
Un objet qui est aussi une œuvre d'art, parce que chez les Chinois, c'est vrai que la céramique, la porcelaine est un objet d'art, est un objet qui est contemplé, qui est collectionné, mais qui fait partie de la vie quotidienne aussi.
C'est ça, et je pense quand même que ce qui est le plus grand chez Shoot, c'est son œuvre peinte.
Oui,
c'est ce qui dépasse vraiment, je crois,
mais ce qui est très touchant et ce qui, moi personnellement, ce qui m'émeut beaucoup, c'est de voir cette relation qui se resserre entre donc le modèle du vase et puis son geste, c'est-à-dire qu'il est obligé de resserrer son geste avec le vase. Il n'est pas comme face à la toile, et notamment ces grandes toiles qu'il a pu faire, et notamment la grande toile Symphonie Festive qui est maintenant installée à l'Opéra de Shanghai, qui fait 6 mètres de long. Il est évident que là, il y a une relation à l'espace qui est encore différente,
nature,
parce qu'il y a une gestualité physique, mais vraiment, parce que quand peindre, c'est physique comme sculpter. Mais là, avec la céramique, avec la porcelaine, il est obligé de resserrer tout ça. Il y a une concentration.
Dans un autre sens aussi, comme on peut tourner dans la peinture tout autour, c'est comme si on pénétrait dans la nature.
Alors c'est là
aussi.
Où justement
là,
il arrive.
La nature est très forte parce qu'on se promène dans le fond dans une nature qui est sa nature à lui, qui n'est pas représentative figurativement, mais qui est une chose ressentie de la nature. C'est vrai, et c'est très fort, je trouve.
Et là, il y a ce. Oui, puis alors il y a peut-être ce mouvement aussi existentiel et qui, chez le peintre chinois, qui ne bouge pas, qui contemple la nature et puis qui, rentré chez lui, dans son atelier, va complètement déverser ce qu'il a absorbé en lui. Et là, c'est un peu ça. Et c'est nous qui faisons l'inverse, c'est-à-dire que c'est nous qui allons tourner autour du vase et qui allons rentrer dans cet espace cosmique.
Est-ce qu'il avait déjà peint des vases au préalable, enfin, de,
type d'exposition? Il avait déjà travaillé, pas la porcelaine, c'était de la céramique chez un céramiste en Bourgogne. Et il avait exposé ses vases, ses grands plats, vernissé à la galerie de la bouquinerie, qui est à côté d'ici rue des Beaux-Arts. Donc, il avait déjà eu cette approche. Et là, bon, c'était des formes beaucoup plus variées. Là, c'est un type de vase qui est très spécifique et qui a été ressorti par la manufacture de Sèvres et qui est un modèle qui a été créé par De Coeur, qui est un des grands céramistes de la fin du 19e, début 20e, et qui a dû s'inventer cette forme qui devait lui convenir avec cette panse un peu renflée. Et là, ça donnait effectivement un espace pour libérer ses motifs et cette nature qu'il porte en lui, que Shu Tae-Chun porte en lui.
Voilà, une très belle exposition à voir donc au Musée Guimet à Paris jusqu'au 7 septembre 2009. Je vous remercie beaucoup d'être venu dans cette émission, Madame Arambourg, correspondante de l'Académie des Beaux-Arts, et Monsieur Poncet, président de l'Académie des Beaux-Arts. À très bientôt et merci.
Merci.